Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on est ravis de vous accompagner tous les week-ends, tous les samedis, avec des discussions enflammées entre les grandes gueules, avec Alizé Cornet, avec Sarah Pitkowski, avec Cédric Emmons, Christophe Cessieux. Il y a des idées de vestiaire qui surgissent parfois.
Ouais, on apprend du vocabulaire aussi. Hein. Ouais,
mais c'est intéressant de.
On échange.
Effectivement, ce qu'on peut. Oh, c'est des brainstorming.
C'est des points de vue.
Les publicitaires.
C'est des points de vue.
Pour savoir où on peut aller par la suite. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute la première heure des grandes gueules du sport en podcast, évidemment, si vous avez raté un super débat sur le 15 de France, notamment. Dans un instant, tiens, on va parler de la punchline. Il sera question de vélo, mon cher Christophe, puisque Marcel Kittel, tu te rappelles de Marcel Kittel?
Pas de vélo, de dopage.
Et oui.
Quand tu fais un sujet vélo, c'est toujours un sujet de dopage.
N'importe quoi.
C'est pas vrai, arrête.
À moi?
Si, toi.
À moi, tu vas m'accuser de ça? Les yeux dans les yeux, Christophe. Ouais, il a un regard curieux, que je qualifierais de curieux. Alors qu'on a parlé de cyclisme pendant toute la saison, on a fait des tonnes pour mettre en avant le romantisme du vélo. Non, bah là, Marcel Kittel, je ne crois pas que le cyclisme soit propre. L'ancien sprinter vainqueur de 14 étapes, on va en parler, lucide ou scandaleux? C'est la question que l'on pose. En fin d'émission, je vous rappelle les Jeux du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remporté le maillot Australie 1908, le maillot de la première tournée en Europe des Wallabies. Pour remporter votre maillot fabriqué en France de rugby sport d'époque, qu'adore Cédric. Hein.
C'est pas la première tournée qu'a couvert Christophe
pour le 1908.
Si.
Non, mais c'est en Nouvelle-Zélande. J'avais mis 6 mois sur le bateau.
Il n'y a pas Fred Weiss, donc c'est bien que t'envoies un peu. C'est important.
C'est que mon arrière-grand-père a été premier capitaine du 15 de France à être allé s'imposer, enfin à aller jouer en Nouvelle-Zélande.
Ouais. Attends, c'est respect.
Noël Cessieux.
Et quel est le rapport?
Arrière.
Bah qui, je sais pas.
D'ailleurs, on a vérifié. Notre producteur Maxime Bollin me dit non, 1908 c'était la deuxième tournée de Christophe pour remporter votre maillot fabriqué
en
France
en 19.
De rugby sport d'époque, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16 sport au 7-32-16. Christophe nous dit j'ai toujours aimé les chiffres, sachez qu'il nous a envoyé un fichier Excel dans la nuit hier pour nous dire regardez tous les vrais chiffres des scores des jeux du sport avec le taux de pourcentage de victoire.
C'est pas vrai, t'as fait ça?
Je vous le transmettrai.
Non, ça ne m'intéresse pas.
Alizé, qui est quand même pas très bien placé.
Ah bah là, qui Alizé,
ça doit être moi, je pense.
J'ai fait une entrée en matière assez désastreuse. Non, mais il faut juste le temps de se mettre dans le coup. Ça prend combien d'émissions? Parce que j'en suis quand même à 5. Non, mais si tu réécoutes en replay, tu peux trouver les astuces de Georges et de Max.
Parce que Sarah écoute en replay pour avoir des.
Ah, moi aussi. Ça y est, je vais me servir de l'expérience.
Je remets le replay de l'émission. Pour savoir.
Quand je suis pas là, je cours le samedi et le dimanche, j'écoute l'émission et je repère comment ils choisissent leurs questions. Tu vas y arriver, tu vas voir.
Téléphone portable, tu triches.
Vous êtes complètement
Pitkowski.
C'était pas mal en collectif. 2, 3, t'es quatrième. 3 victoires collectives sur 4 matchs.
Individuellement, pas très bon, mais j'adore.
Individuellement, t'es beaucoup plus loin. Individuellement, t'es beaucoup plus loin. Je t'aurais même pas trouvé, t'es avant-dernier.
Juste
derrière Alizé.
Ben voilà.
C'est-à-dire zéro victoire en 4 matchs.
Non mais attendez, je vous dis, on a la radio, il est sur sa tablette, il a un fichier Excel avec des couleurs et tout, des tableaux.
Couleurs bleues, mais c'est le truc sérieux quoi.
Allez, sérieusement, est-ce que vous êtes impatient de voir revenir Zizou ou pas?
RMC, le ring des GG.
Sur ce premier corner français.
Donc je vais mettre un terme à ma carrière en équipe de France.
Pas ça, Zinedine.
Est-ce qu'on vous revoit sur le terrain?
Bientôt, j'espère.
Et sur un banc?
Bientôt aussi.
Il a ressuscité.
Jésus 2, le retour.
Et c'est le doublé de Zinedine Zidane.
50% homme, 50% Dieu, 100% sauveur.
C'est parti, la Panenka.
Je sais ce que je veux aujourd'hui et ce que je ne veux pas.
Et quel est ton nom? Christ. Jésus-Christ.
Il faut sentir les choses, il faut les vouloir.
Un jour, on me construira des édifices.
J'ai rien sollicité du tout.
J'en profite pour les foutre un coup de boule dans les valseuses.
Des boules, donc, de Zinedine Zidane.
J'ai mon avis là-dessus, mais j'ai, c'est pas ce qui m'intéresse.
Ah, Zizou. Non, mais franchement, ça nous met des frissons. Hein. C'est de, je sais pas vous, mais réentendre dans les commentaires et tout ça. Chaque
c'est
jour.
Un grand romantique.
Hein?
suis un grand romantique.
Ah bah bien sûr, moi je suis un grand sensible, hein, tu le sais. Non, regarde pas comme ça, sinon je vais pleurer. Chaque jour nous rapproche un peu plus de l'annonce. Zinedine Zidane, comme successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France de football. Hier, le président de la Fédé, Philippe Diallo, a déclaré ceci dans un entretien à nos confrères de l'équipe. Je vais le citer. Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il y a deux fenêtres, soit à la fin de la Coupe du Monde, soit, et c'est la première fois qu'il dit ceci, une fenêtre plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial. Une option, c'est autour de mars-avril 2026. La question que je vous pose, les GG, Zidane pourrait être annoncé au printemps, donc avant le Mondial, bonne ou mauvaise idée? Votez sur le compte X des GG du sport, vous dites à 54%. Oui, bonne idée, comme Sarah, Alizé et Cédric. Vous êtes donc un petit peu moins à dire mauvaise idée, comme Christophe. Arthur Perrault, qui suit l'équipe de France sur RMC, est avec nous. Salut Arthur.
Salut les GG. Bonjour à toutes et à tous.
Salut.
Arthur qui est en train de se dire, ouais, dans quelques mois, il va avoir Zidane en conférence de presse. Ouais. C'est incroyable.
Tu sais que je pense souvent au premier jour où il sera nommé, je me dis, quel bordel ça va être ce jour-là. Oui, ça risque d'être un sacré événement.
Il peut y avoir du monde. C'est bien.
Un peu. Ouais.
Votre question RMC, oui, c'est bien Arthur. Voilà, ce serait comme ça, quoi. J'ai l'impression que vous validez pas l'imitation. Salut Arthur.
C'était censé être ça. Elle n'était pas flagrante quand même. Hein.
Non, moi je voulais dire une imitation d'Arthur.
C'était pas du tout Zidane. C'est la première fois que le président de la 3F, Arthur, ouvre la porte à une nomination du nouveau sélectionneur avant le Mondial. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la succession de Deschamps, Arthur?
D'abord, ce qui est sûr, c'est que le sélectionneur a déjà prévu de refermer le livre de l'équipe de France au terme du Mondial, peu importe son issue. La Fédération française de football a aujourd'hui un discours clair. Elle ne veut pas introduire d'éléments qui pourraient perturber la préparation des Bleus pour la Coupe du Monde l'été prochain. Son président Philippe Diallo l'affirme, je le cite, « Ce n'est pas du tout un faux suspense, c'est simplement un respect par rapport à l'équipe en place. Didier et son staff sont là depuis maintenant 14 ans. » Fin de citation. Mais l'annonce, et tu l'as rappelé Georges, tant attendue, pourrait intervenir à la fin du premier trimestre 2026. Pas de quoi perturber Deschamps, qui explique de son côté, et il l'a redit il y a quelques mois, qu'il respectera la décision de la FFF et que rien ne le gêne pour l'heure. Pour lui, Zizou est un très bon candidat, naturel et même attendu. Zidane, lui, reste très discret et entretient le flou, comme il sait très bien le faire. Lors d'un match caritatif à Toulon, le 11 novembre dernier, on l'a entendu au début de ce débat, il a lâché, je le cite, « Bientôt, je vais entraîner ».
Bientôt. On a eu le précédent sélectionneur à annoncer avant une grande compétition avec l'équipe de France, Arthur ?
On a quasiment un copier-coller. C'était pour Laurent Blanc dès mai 2010. Souvenez-vous, avant le Mondial, son départ de Bordeaux est annoncé. Le communiqué des Girondins est alors très clair lui aussi. Je le cite. L'entraîneur a fait part de son souhait de répondre favorablement à la sollicitation de la FFF en qualité de sélectionneur de l'équipe de France. Sauf que rien n'était bouclé. Une nouvelle qui tombait à 11 jours pile du début de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, quasi officialisée par le président de la FFF de l'époque, Jean-Pierre Escalé.
Merci Arthur, tu restes avec nous évidemment. Est-ce que, annoncer peut-être Zidane avant la Coupe du Monde 2026, que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Christophe, tu pars derrière avec le vote.
Ouais.
Pourquoi c'est une mauvaise idée?
Parce que c'est une très mauvaise idée, parce que ça ne s'est jamais fait, mis à part peut-être le cas dont vient de parler Arthur et
C'est ça.
L'officialisation de
bas. L'orthophoniste, il dit quoi?
Je sais pas comment on dit. C'est pas une officialisation.
Ah, Adrien,
c'est
une si tu nous écoutes, là, t'en tiens une bonne.
Ouais.
Adrien, ou alors, il est 10h17.
On peut juste dire l'officialisation officieuse, sinon.
Ah, bah oui.
Voilà.
Bon, enfin, bref. Christophe, le cas de Laurent Blanc, depuis 50 ans, jamais le nom du sélectionneur suivant n'a été annoncé avant une compétition.
Et donc, c'est écrit dans le marbre. C'est gravé dans le marbre.
Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Notamment, Hidalgo, par exemple, en 84, on savait qu'il allait s'en aller, comme Michel. Deschamps. Et le nom d'Henri Michel n'est arrivé qu'après la compétition.
Oui.
Idem pour Aimé Jacquet.
Aimé Jacquet, Christophe, c'est quand même on est au 21e siècle, à l'heure de la communication, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des dizaines de centaines de débats sur le foot quotidien partout.
Perturber le travail. travail de Raymond Domenech lorsque
mais
dans les
tu sais quoi,
conférences
ça va
de presse d'avant la Coupe
Philippe
du Monde.
Philippe Diallo, il nous sert la com. Mais Philippe Diallo, il nous sert la com.
Christophe te dit. Christophe,
je vous explique le
plan. J'ai jamais vu deux personnes parler autant en même temps. C'est incroyable.
Je ne pense pas que le travail de Domenech va être pourri jusqu'à la Coupe du Monde. Si tu as Zidane qui est là, Zidane au mois de mai, on annonce qu'il arrive.
Ça perdurera rien du tout.
Ah, mais bien sûr, ça perdurera.
Tu sais quoi? Ça, au contraire. Moi, en tout cas,
mais
au contraire.
De tout... que des
mais justement.
Ferrand, il va aller voir Deschamps, il va lui dire. Alors,
justement, évacuons le dossier.
Il va être meilleur.
Évacuons le dossier une bonne fois pour toutes. De toute manière, on sait que c'est Zidane, c'est un secret de polichinelle. Donc, peu importe quand on va l'annoncer, de toute manière, on va en faire des caisses, on va en parler en long, en large, en travers, et on va se demander comment il va jouer. On va se demander quel joueur il va sélectionner. On va le comparer à Deschamps. Donc,
après, tôt, sûr, tu parasites la Coupe du Monde.
Sur Deschamps, tu vas mettre une pression supplémentaire parce que tout le monde va lui parler de Zidane.
Mais bien sûr que non. Mais non, c'est déjà le cas. Mais non, tu sais quoi, ils vont la. Tu sais quoi, quand il dit au printemps. Mais tu sais pourquoi il dit au printemps? Parce qu'il y a deux matchs qui vont aller jouer aux États-Unis. On va en parler. Il y a deux matchs amicaux de l'équipe de France qui vont aller jouer aux États-Unis. Et je pense, quand il dit au printemps, il le dit à ces moments-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une fenêtre. Et dans cette fenêtre-là, je pense que la fédération qui veut garder la main, parce que l'exemple que vous venez de donner, c'est Laurent Blanc qui s'annonce lui-même. Et un sélectionneur, c'est Alizé toi qui t'annonce. Au fait, coucou, je voulais vous dire que je vais être capitaine de Fed Cup. Mais Laurent Blanc,
c'est le club.
Il a dit qu'il avait accepté.
Qui communique comme quoi Laurent Blanc voudrait répondre favorablement.
Donc ça, déjà, c'est une fédération qui doit prendre la main dessus. Et je pense que Philippe Diallo choisit un timing. Alors il essaie de nous endormir un peu. Au moment, il va y avoir une fenêtre médiatique pour l'équipe de France. Sinon, ça va arriver en pleine préparation. C'est pire.
On ne va plus entendre parler que de ça.
Mais non, parce que comme ça va se faire de manière anticipée,
on en parlera quand il arrive.
En fait, comme le dit très justement Sarah, je trouve le dossier va être évacué, les questions vont être posées, et au final, on va avoir assez de temps ensuite pour se focaliser sur l'événement.
L'équipe de France de Deschamps réalise un mauvais match, une mauvaise performance.
Mais ça aurait été encore pire.
Vivement Zidane arrive. On n'en peut plus d'aider, mais ça va lui pourrir la vie.
Mais de toute façon. C'est déjà le cas, Georges l'a dit tout à l'heure, et c'est encore une fois, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que ça va se passer, on sait juste pas quand. Et au final, Didier, il le sait. De toute façon, il va clôturer son chapitre en équipe de France, et il sait que son successeur.
Bon, toi, t'as attendu que Bennett s'en aille pour être nommé. J'aurais voulu qu'on l'annonce avant.
Mais ça n'a rien à voir. T'étais encore joueuse.
Et puis je pense qu'il n'y a pas qu'un seul fonctionnement qui marche.
Eh ben le fonctionnement adopté par toutes les fédérations depuis 30 ou 40 ans. C'est d'annoncer le nom après une compétition.
Mais tu
dans
penses
le pas dans le rugby, mais dans les clubs, tu connais bien aussi. Si on ramène ça au club, c'est souvent annoncé.
Alors, je vais te donner l'exemple.
C'est souvent annoncé dans les clubs. On sait que l'entraîneur n'ira en fin de saison et pas au conduit. Et on annonce très clairement. Pourquoi? Parce que tu es obligé de préparer les saisons d'après. Tu es obligé de choisir tes adjoints, ton staff, ça ainsi de suite.
Ça avait été le cas en 2011. Lièvremont dispute la Coupe du Monde. L'info qui n'est pas officialisée de Saint-André arrivant, le succédant est annoncé. Ça a été, alors pour le sélectionneur futur, qui était à l'époque consultant sur RMC, ça a été une Coupe du Monde affreuse. C'est-à-dire qu'il ne pouvait aller sur aucun stade. Il était harcelé
justement, tu sais quoi,
les journalistes.
C'était la question que je voulais vous poser. Si on n'annonce pas Zidane, comment voulez-vous qu'il aille aux États-Unis suivre des matchs tranquillement, voir l'équipe de France?
Parce que tu crois que Zidane va être tranquille.
Mais s'il n'est pas annoncé, on va le pister partout. Mais au moins, on aura fini.
Zidane, s'il se déplace, il est pisté quoi qu'il arrive. Il va voir un match de l'équipe de France.
Non.
Il est pisté.
Mais Christophe, justement, est-ce qu'ils n'essayent pas de faire un fonctionnement différent, justement parce que c'est Zizou et que ça va être une bombe médiatique, que ça va être quelque chose d'énorme et qu'il faut peut-être le préparer en amont de manière un petit peu différente? C'est une gestion intelligente de ce qui va se passer. Ça va être un débordement.
Quand Platini a été nommé sélectionneur, on a attendu après la compétition pour le nommer. Platini, c'était
Mais c'était une autre époque.
Comparer les époques.
Ah bah alors, comparons rien alors. Ne comparons rien. Ne faisons pas de débat.
Christophe, la pression médiatique, elle peut pas être la même il y a 20 ans qu'aujourd'hui.
Tu penses
les feux
que...
des projecteurs, c'est tellement beaucoup plus lourd qu'à une certaine époque.
Et tu penses vraiment que ça va perturber Didier? Didier qui est en place depuis 14 ans, qui va clôturer son chapitre.
Je pense que ça va lui pourrir la vie.
Lui pourrir, carrément.
Je pense qu'il y a des pourcentages où, dans sa préparation, il aura toujours cette petite musique en tête. On va me comparer à...
Mais il l'a déjà. Ouais. Tu sais quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, il joue. Peut-être qu'aujourd'hui, la manière dont il joue, il a la tête de dire, mais est-ce que je dois déjà faire du Zidane? Tu sais pas comment ça peut l'imprégner.
Arthur, tu voulais rajouter un truc, Arthur?
Juste un truc, et Christophe en a parlé très tôt. Très objectivement, je pense que si c'est annoncé avant la Coupe du Monde, on va lui parler que de ça. Nous, les premiers, journalistiquement parlant, on va lui poser des questions que sur ça. L'autre chose, et je pense que lui, Deschamps a du mal à le dire très clairement, à l'exprimer. En fait, la seule chose qu'il importe, c'est que sa préparation ne soit pas perturbée et que justement ne soit pas parasitée par ce type d'annonce-là avant. Que ce soit après, ça ne le dérange absolument pas, mais que ce soit avant, je pense que ça le dérange. Et dernier élément à prendre en compte, les joueurs, pensez aussi aux joueurs. Imaginez, avant la Coupe du Monde, on leur dit bon bah voilà, le successeur ce sera lui, il faut marquer des points à ses yeux et il faut déjà balayer Deschamps. Il y a peut-être aussi ça, peut-être rentrer dans l'affection des joueurs.
Cédric. Arthur, il a réagi, Didier Deschamps. En disant bonne chose, mauvaise chose, si c'était Zinedine Zidane.
Non, il ne veut pas en parler.
Jamais, non.
Il a dit c'est un candidat naturel, quelqu'un de légitime, oui, mais la décision de la Fédé sera la décision de la Fédé. Je respecterai ça. Voilà.
Laurent, au 32-16, nous appelle pour participer au débat. Salut Laurent.
Salut à tous, salut les GG.
Toi, tu es d'accord avec Christophe? Je crois que tu penses que c'est une mauvaise idée de l'annoncer avant le mondial.
Alors, moi, je vais dire, j'adore Sarah. Hein. Vraiment.
Oula, je ne
peux pas être d'accord avec toi, mais pas du tout. En fait, je vais te dire quelque chose, Sarah.
Vas-y.
Ça va sans dire, il y a une expression, ça va sans dire, mais sur le coup, ça va être pire. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis que c'est un secret de polichinelle. Ok, sauf qu'aujourd'hui, si demain ça s'ouvre, si demain on ouvre la boîte de Pandore, mais écoute, on va parler que de ça à Dédé. On va lui parler que de ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, tout le monde va être concentré là-dessus. Moi, je pense qu'il faut vivre heureux en étant caché. Moi, je pense que tout le monde le sait. Ben, si tout le monde le sait, très bien, on passe à autre chose. Par contre, s'il y a une officialisation, automatiquement, tu vas avoir un déferlement. C'est-à-dire que les conférences de presse, ça ne sera plus sur le jeu d'équipe de France, ça sera plus sur ce qu'on va faire à la Coupe du Monde. Ça sera... Mais Zidane arrivé quand? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de façon de jouer. Il va changer l'effectif. Moi, je pense vraiment, Sarah, aujourd'hui, on est tous au courant que c'est lui. Eh bien, c'est bien. On est tous au courant. Point barre. On ferme le sujet, on le met de côté et on pense à la Coupe du Monde. Voilà. Mais se faire plaisir, c'est comme si demain, Sarah, t'attends ton cadeau de Noël. Et au lieu d'attendre le 24 au soir, tu dis, je veux l'avoir le 22. Mais tu sais ce que c'est? Tu sais ce qu'il y a dessous? Et tu vas casser le plaisir de dire j'attends jusqu'au jour où ça sera le moment de découvrir ce qu'il y a derrière.
Mais je pense à tous les enfants qui nous écoutent en plus et qui se disent le Père Noël ne passe pas le 22.
Laurent, bravo, tu as complètement éteint.
Il m'a fait changer d'avis parce qu'en étant joueur et ayant eu ce cas de figure où l'entraîneur n'était pas conduit dans un club, tu peux jeter les poches en disant bon, lui de toute façon il m'a pas aimé ou il m'a aimé, mais l'année prochaine c'est autre chose. Sauf que mon petit bémol, c'est une Coupe du Monde. C'est pas pareil. Voilà, ça serait pas après une Coupe du Monde, j'aurais. Mais tu m'as fait changer un peu d'avis.
Ah, tu vois.
Mais le sujet va se tarir, non? De toute façon, c'est pas comme si on allait lui parler de. Alors, je sais pas quand la fenêtre va s'ouvrir, si c'est au printemps ou c'est ce qui a été mentionné, je crois. Mais à un moment donné, j'espère que les journalistes sont assez intelligents pour pas répéter en boucle pendant des mois et des mois et des mois et des mois les mêmes questions à Didier.
C'est mal collé.
Une petite grimace sceptique.
Merci Christophe. Non, mais pas, faut pas compter sur Arthur Perrault pour être un journaliste intelligent.
Sachant que t'as été mon prof,
le sujet va forcément se tarir au bout d'un moment. Enfin, on peut pas poser les mêmes questions pendant des mois. Ça va être ennuyeux pour les gens.
Il y a un autre exemple en Argentine lorsque Maradona est pratiquement annoncé pour être nommé comme sélectionneur. Mais ça a fait des semaines et des semaines. On n'est pas l'Argentine.
C'est une bombe.
On touche à une idole.
Mais c'est une bombe. Évidemment, c'est moi qui l'ai employé ce mot. Alors, c'est une bombe médiatique.
Je trouve que le parallèle avec Blanc Domenech tient pas forcément parce que Blanc, il arrive alors que Domenech est constamment décrié par la presse. Domenech se qualifie pour l'Afrique du Sud d'une manière compliquée. Souvenez-vous, on passe passe par les barrages, il y a la main d'Henri. On arrive en Afrique du Sud, c'est déjà compliqué. Là, Zidane, il arriverait après un Didier Deschamps. Donc franchement, à part dans le jeu, il y a pas grand-chose à dire.
Mais, c'est le quoi des champions du monde. Oui, mais je pense que il y a des choses qu'on n'ose pas positif. Faire.
Si le nom de Zidane sort, en fait, il arrive avec.
Il y a des choses qu'on n'ose pas faire quand on a en face de soi un sélectionneur qui a été champion du monde. Je pense qu'on est tombé sur Domenech. Aujourd'hui, quand tu écoutes les spécialistes et les nombreuses émissions spécialisées foot, on remet quand même souvent en cause le jeu et les décisions des champs. Mais on l'attaque jamais frontalement parce qu'il reste champion du monde.
Oui,
basta.
Il y a eu un petit procès cette semaine. Là.
Oui, oui, mais ça c'est pas sur le terrain. Moi, je pense que même si on n'est pas d'accord avec la manière dont joue Didier Deschamps, il a quand même une forme de bienveillance ou de distance. C'est-à-dire qu'on l'attaque pas frontalement. Donc je pense pas qu'on puisse le comparer.
Didier Deschamps, il reste quand même très apprécié et très populaire.
Et la question, c'est est-ce que ça va perturber la préparation de l'équipe de France? Est-ce que ça va perturber leur mondial? Moi, je pense pas.
Non, moi, je pense pas.
Je vois pas en quoi.
Mais
en fait.
Pourquoi tu penses pas?
Mais parce que l'événement est tellement gros, ils sont tellement en mission, ils sont tellement focalisés sur l'événement, que ce soit les joueurs ou Didier Deschamps.
Ou le staff.
En fait, ça va être une nouvelle, on va lui en parler, il va se blinder. Vous pensez pas qu'il a eu des situations à faire face bien pire que ça, que de parler de son prédécesseur, de son successeur,
En 2011.
Didier, il a cette distance, c'est vrai qu'il a ce recul sur les choses, il a l'expérience et je pense qu'il peut gérer ce genre de
14 ans.
Pour rejoindre Alizé, en 2011, on sait que Lièvre on n'est plus sélectionneur.
Il y en, a... en rugby.
En rugby, pardon. Ça ne te perturbe pas parce que tu es habité pour être champion du monde.
Mais exactement. La mission est beaucoup plus grande.
Il y a pas
grande.
Eu un peu une prise de pouvoir des joueurs pendant la Coupe du Monde, Cédric.
Ça, je parle.
Est-ce que son autorité n'a pas été un peu abaissée?
C'est un autre débat. Je parle dans la préparation.
Si tu savais qu'il restait encore, pardon, 4 ans, je ne suis pas sûr que vous seriez monté au créneau.
Là, je suis persuadé qu'on monte quand même au front. À ce moment-là, vu le contexte.
Merci Arthur d'avoir été à cette Arthur qui ne va avoir qu'un mot-clé dans sa vie sur les 6 prochains mois, Zidane. Voilà, c'est très simple. Et d'ailleurs, intéressant de se rappeler aussi que les joueurs de l'équipe de France, certains ont dit aussi qu'ils voulaient être champion du monde aussi pour Didier Deschamps. Donc, il y a quelque chose pour l'accompagner sur la fin. Tiens, le résultat du sondage, Christophe, 53% à dire bonne idée, 47% à dire mauvaise idée. T'as gagné un petit point auprès des auditeurs, Christophe, en essayant de.
Et je pense que c'est plus l'auditeur qui t'a aidé,
exactement,
en fait.
Exactement ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus l'auditeur.
Il a été très bon.
Gérard Carrez, c'est radio officiel.
Il m'a fait vaciller aussi.
Tirage au sort de la Coupe du Monde le 5 décembre à Washington d'ailleurs. Et l'équipe de France va jouer donc face à la Colombie et au Brésil, a priori au mois de mars, dans une tournée américaine. On devrait avoir la confirmation définitive dans les prochains jours. On revient dans quelques instants. On va parler de vélo, du cyclisme. Marcel Kittel, l'ancien sprinter, ne croit pas que le cyclisme soit propre, lucide ou scandaleux. On en parle ensemble.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Christophe Cessieux, plus ronchon que jamais ce matin, fidèle à sa légende. C'est une légende qui s'écrit en direct avec nous tous les week-ends. Vous savez, il dit non de la tête, mais nous savons, tous ensemble, avec Alizé Cornet, Sarah Pitkowski et Cédric Emmons, ce matin, dans un instant, vos GG vous prédisent le week-end. J'y crois pas. Tiens, d'abord, il y a du live en ce moment. Léna Marjac était avec nous il y a quelques instants, du ski alpin, le slalom à Görgl dans le Tyrol. On pourrait faire des petits chants tyroliens, tiens, tout à l'heure d'ailleurs, pour se chauffer la voix. Léna Marjac, Clément Noël est déjà passé.
Clément Noël est passé, il avait le dossard 2 et il est pour l'instant en tête. Il a fait quelques petites erreurs sur cette piste, lui qui est tenant du titre ici à Görgl en Autriche, mais des petites erreurs qui pour l'instant n'ont pas eu de grosses conséquences. Donc il est premier provisoire juste devant Lucas Pinheiro Breton qui a 2 dixièmes de retard et Henrik Kristoffersen, le Norvégien, à 5 dixièmes derrière Clément Noël. Les conditions sont bonnes parce qu'il y a du soleil, il fait moins 12 degrés, mais la neige n'est pas optimale, c'est-à-dire qu'on avait des belles conditions de glace la semaine dernière à Lévis, là c'est pas le cas, il y a beaucoup moins d'accroches, donc ça va être une manche un petit peu compliquée, surtout que ça risque de bouger d'ici la fin. Mais en tout cas, Clément Noël est premier provisoire et on retrouvera dans quelques instants Steven Amier avec son dossard 10 derrière Victor Mufa-Jandé, Paco Rassa et Antoine Azolin pour tous nos Français.
On fait le point avec toi évidemment Léna sur ce direct. Donc pour l'instant Clément Noël leader provisoire, c'est vrai, tu as raison, les conditions là, en tout cas grand ciel dégagé sur Görgl, magnifique. Les amis, tout de suite on va parler de vélo puisque Marc Cavendish, souvenez-vous, nous avait dit il y a quelques semaines que le cyclisme était peut-être le sport le plus propre du monde, eh bien on a une contre-punchline cette semaine, signée Marcel Kittel, sprinter aux 14 victoires d'étape sur le Tour, retraité depuis 2019. Écoutez.
RMC, la punchline GG.
I don't believe that cycling is clean now.
Je ne crois pas que le cyclisme soit propre aujourd'hui, absolument pas. Ce serait être très ignorant sur les faits. On doit regarder honnêtement le sport aussi en tant que fan et il y aura toujours des gens qui tenteront de trahir le système. On doit juste s'assurer de protéger ce que nous avons et le progrès que nous avons fait. Et nous devons être sûrs que ce sont des cas uniques et non pas un système de dopage à large échelle que nous avions dans les années 90.
Et Marcel Kittel, il a pas sa langue dans la poche, hein. Retraité depuis 2019, il a 37 ans, je vous rappelle aujourd'hui, il garde un œil avisé sur le cyclisme actuel. L'Allemand vainqueur aux 14 étapes sur le Tour, donc il tique sur certaines performances visiblement. Dans une interview que vous avez écoutée au podcast Domestique, l'ancien sprinter a expliqué qu'il ne croyait pas donc à une pratique sans dopage. Je ne crois pas que le cyclisme soit propre. Les GG, je vous pose la question, est-ce lucide ou scandaleux de voir Marcel Kittel, un ancien garçon très important dans le peloton, hein, dire ceci. Sarah.
Bon, plutôt lucide.
Ouais. Bah pourquoi ? Tiens, allons sans doute directement dans le débat, bah, nous, Sarah.
Parce qu'aujourd'hui, je pense que dans aucun sport, on peut assurer qu'un sport est 100% propre. Ça fait partie
dans
de.
Dans aucun sport, mais ça tombe toujours sur le vélo quand même. Hein.
Oui, oui, parce que effectivement,
il y a des antécédents,
mais je pense que.
Il n'y en a pas dans d'autres sports.
Hein. Oui, mais je pense que c'est là pas où autant. Marcel Kittel doit aller un peu plus loin dans sa réflexion, c'est d'expliquer qu'il y a un passeport biologique depuis 2008 qui surveille les variations anormales dans le sang, qui a des contrôles hors compétition inopinés, presque même quotidiens pour certains coureurs, qui a la conservation des échantillons pendant des années pour des analyses qui peuvent être faites après. C'est-à-dire que ce qu'a mis en place le cyclisme, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur plutôt que de dire c'est un sport propre ou non, ça peut pas être un sport propre. Mais il faut parce que je pense que le cyclisme a été précurseur pour imposer un suivi beaucoup plus pointu, mais aucun sport, et dans le nôtre aussi, dans le tennis aussi, il y a quand même des grosses zones grises dans le tennis, dans le rugby, dans le foot, parce que les enjeux commerciaux à des moments, dans le foot, on n'y a jamais eu vraiment de cas de dopage.
Au rugby, tu as le contrôle longitudinal sur...
Oui, mais en France, tu as le contrôle longitudinal sur tous les athlètes qui sont sur les listes. Donc, je pense que plutôt que d'asséner, c'est un sport propre, c'est pas un sport propre, mettons en valeur systématiquement ce qui a été mis en place pour s'en rapprocher.
Et qu'il arrive avec des preuves, si preuves.
Bon, lui, il doit en avoir.
On a l'impression qu'il se donne un peu le rôle d'un lanceur d'alerte, comme pour dire attention, on est quand même un sport avec un lourd passif de dopage. Oui, il y a peut-être des choses qui ont été mises en place, mais là, on a vraiment l'impression qu'il a envie de sensibiliser un peu les gens. Et moi, ce qui me questionne, c'est d'où il part en fait pour faire cette sortie de route, c'est le cas de le dire pour le coup. Qu'est-ce qu'il a envie finalement de dénoncer ? On ne sait pas trop d'où ça vient en fait cette volonté de dénoncer. Est-ce qu'il le fait en tant qu'amoureux du sport pour défendre son sport, en tant qu'ancien athlète peut-être pour se justifier ou en fait moi c'est vraiment le contexte qui me pose problème. Mais par contre le contenu de ce qu'il dit, je pense que c'est plutôt lucide. Et qui de mieux placé que lui qui a évolué dans ce niveau-là pendant des années, pour connaître un peu les rouages de ce sport, désolé Christophe, mais qui a des antécédents.
Été personnellement inquiété dans l'affaire de dopage sanguin en 2007 et 2008. Il était suspecté de traiter son sang par rayon UV et ça avait fait.
Mais est-ce que ça discrédite son propos ?
Ils inventent des trucs.
Ça dit que même ceux qui sont les chantres de l'antidopage, ont touché au dopage une fois dans leur vie.
Il y a aucune preuve contre Marcel Kittel. T'as dit.
N'apporte aucune non plus.
Ouais, c'est ça qui me gêne, moi.
En fait, il dénonce simplement, sans étayer.
Il a pratiqué un sport, il est fan de son sport, il défend son sport.
Il a pratiqué ce sport, amoureux de ce sport, ça sert à quoi ? Si t'as pas de preuves à ce moment-là, soit alors oui, c'est un lanceur d'alerte.
C'est pour ça que ça me
Il veut dire quoi ? Que les performances du moment sont peut-être trop fortes, trop grosses.
Tu trouves qu'il fait plus de mal à son sport ?
Soit tu arrives avec un dossier complet, tu dis voilà ce que j'ai à montrer, ce que j'ai à parler. C'est encore une fois taper sur un sport qu'on n'a pas besoin, quoi.
Ouais. Moi, je pense que c'est à la fois lucide et scandaleux. Ouais, c'est un peu la situation dans laquelle tous les journalistes de vélo se trouvent en suivant ce sport. C'est-à-dire que depuis les affaires Festina, Armstrong et toutes celles qui ont suivi, on est obligé d'être lucide. On peut
plus s'emballer aujourd'hui. Quand tu vas commenter le Tour de France, tu ne peux plus t'emballer de la même façon.
Mais il faut l'esprit critique. Quand tu vois les watts développés dans des ascensions de montagne, on ne parle même plus de dopage médicamenteux, mais on parle de dopage même technologique.
Génétique.
Technologique. Les fameux moteurs dans les vélos, on en a entendu. Sans qu'il y ait de preuves, sans qu'on ait trouvé.
Lorsque tu mets la lutte antidopage en avant, moi je n'y crois pas du tout à la lutte antidopage en avant.
Elle existe quand même.
C'est une vaste fumisterie qui empêche peut-être les choses d'aller trop loin et mettre des garde-fous.
Mais
aujourd'hui, la dernière fois que tu as eu un grand coureur cycliste pris dans les filets de l'antidopage, ça remonte à très longtemps. Il n'y a plus de contrôle antidopage positif sur le Tour de France et sur les grandes épreuves.
Et parce qu'ils utilisent des produits
qui sont indétectables.
Les microdosages, je pense qu'ils sont en avance sur les contrôles, c'est impossible à détecter.
Ça sert pour tous ceux qui n'ont pas les moyens, puis tous les autres sportifs, de dire attendez, on vous contrôle, faites pas n'importe quoi. Mais le grand champion qui a envie de le faire et qui est dans cette démarche-là,
tout le monde doit douter, tout le monde doit être lucide qu'il se passe sans doute des choses. Et quand tu en parles en off à des grands patrons d'écurie, ils te disent il y a quelque chose qui va pas, et si ça retombe, ce sera la mort du cyclisme.
Donc, mais on est d'accord que c'est ce qu'on pensait aussi à l'époque, que le cyclisme ne meurt jamais.
Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme Kittel en disant ils sont tous dopés et il faut arrêter.
Non, mais il faut reconnaître que le cyclisme est le sport le plus contrôlé aujourd'hui. On est bien d'accord.
C'est vrai.
T'es le premier à le dire.
Bien sûr.
Quand tu vois quand NBA, il n'y a jamais un cas de dopage.
Non, il y en a eu, mais dans les sports américains, on le sait, que ce soit en baseball,
en football américain, en basket, c'est zéro transparence.
Je balance une pique pour Fred, mais c'est du spectacle, c'est pas du sport.
Moi, je ne crois pas à la lutte antidopage. Quand tu vois que la lutte antidopage décide de s'arranger avec un numéro 1 de tennis pour finalement qu'il ne soit pas sanctionné.
Je parle des deux zones grises.
Tu vois, c'est la même chose. Donc, est-ce que vous croyez, vous, vraiment à la lutte antidopage? Je sais que ça vous embête dans votre
mais
vie.
Mais on ne croit, en tout cas, moi, je ne crois pas plus à la lutte antidopage que le fait qu'un coureur cycliste me dise que son sport est 100% propre. J'y crois pas plus que ça.
Non, mais il y a personne.
Mais personne, mais même dans la vie quotidienne, quand tu vois qu'on a des élus. Des élus qui prennent des produits illicites, c'est
mais
partout dans notre société.
À la différence d'autres sports, c'est un ancien cycliste qui balance et qui crache dans la soupe de son sport. Ça,
mais est-ce qu'il crache dans la soupe?
Mais si, dans d'autres disciplines, jamais tu verras quelqu'un en disant le tennis n'est pas propre, il faut faire. Enfin,
et parce que c'est pas la même histoire.
Il y a pas la même matière.
Il y a le même passé en athlétisme, il y a le même passé en ski de fond, et tu vois pas non plus les mecs.
Et parce que les mecs ont peur que leur sport replonge dans ce qui les a déjà fait plonger à l'époque. C'est ce qu'il y a dans l'argument de Kittel, c'est de dire ne retombons pas dans ce qui était le vélo dans les années 90.
Ça sert pas à son sport.
Et on le dit dans un contexte, parce qu'il faut aussi quand même le rappeler, on en parle ici dans les grandes gueules du sport depuis des mois et des mois, les performances sont stratosphériques en ce moment dans le cyclisme. On a un super champion qui interpelle au-delà du cyclisme, évidemment, on le célèbre aussi, mais ça interpelle.
Et c'est peut-être ça qui fait réagir des mecs comme Kittel, en fait.
Mais ça sert pas à leur sport.
Non.
Bon, mais c'est un vaste.
Mais ça le dessert pas non plus.
Vous croyez que Froome, Wiggins,
Vingegaard,
n'ont pas été aussi soupçonnés de dopage? Tu ne peux pas être leader du Tour de France sans être soupçonné d'être une roche chaudière.
Le mot de la fin.
Non, ça prendrait trop de temps. Mais pour revenir à l'histoire de l'antidopage, quand tu dis est-ce que vous croyez vraiment à l'antidopage? Heureusement, parce que quand t'es un athlète propre, tu as envie d'y croire. Sinon, tu crois plus au sport. Tu crois
jamais eu des soupçons sur des joueurs ou des joueuses, et tu t'es dit pourtant
pas tant que ça.
Elle a pas
pas tant que ça. Je vois comment on est contrôlé en plus à l'extrême. Moi, une année, j'ai eu 90 contrôles antidopage à la maison. C'est irrespirable, en fait. On a mis une pression sur les épaules alors que j'étais 50e mondial. En plus, j'étais nulle. Alors je me dis, forcément, les mecs top 10 et les grands champions sont forcément surveillés. J'ai envie d'y croire. C'est l'espoir et l'amour de mon sport qui me donne envie d'y croire.
50e mondial, t'étais pas nulle.
Non, mais c'est pas nul. Non, mais
j'étais pas nulle, mais j'étais pas en première.
J'étais pas la première cible.
Voilà, la première cible, et pourtant.
90 contrôles antidopage sur Christophe Cessieux sur une année. Je pense qu'il y en aurait quelques-uns.
En tout cas, une chose est sûre, si l'alcool était dopant, voilà, les rugbymen ne seraient pas bien. Ça, c'est sûr.
Allez, vive.
C'est totalement facile.
Vous seriez dopé.
Cette analyse, elle est nulle.
Alizé a fait trop d'émissions avec Fred Weiss.
On attaque tout le monde.
Allez, on revient dans un instant. J'y crois pas, tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Alizé Cornet et Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Cédric Emmons. Dans un instant, le vestiaire des grandes gueules. Tiens, on va parler du sens du spectacle dans le sport de haut niveau à travers vos expériences. On va parler Schistera, Twinner. On va se régaler. D'abord, il y a du live sous un magnifique soleil dégagé dans le Tirol. Le slalom de Gorgel masculin à moins de 3 mois des Jeux Olympiques d'hiver. Léna Marjac, Steven Amier était attendu au départ.
Oui, Steven Amier est pour l'instant 8e provisoire. Une très grosse erreur en haut du mur. De cette piste ici à Gourgueul et donc presque 9 dixièmes de retard pour le Français qui est toujours à la recherche de son premier podium en carrière. Et c'est redescendu aussi pour Clément Noël. Il était premier provisoire tout à l'heure quand on s'est parlé. Il est maintenant 5e parce qu'il y a notamment des Norvégiens qui sont venus s'intercaler, notamment Atli McGrath, le jeune Norvégien qui est donc le nouveau leader de cette première manche. Donc Clément Noël 5e, Steven Amier 8e et il va nous rester encore Victor Mufajandé, Paco Rassa et Antoine Azolin pour les Français.
Clément Noël à 5 dixièmes de leur première place. Donc tout est jouable tout sur la deuxième manche tout à l'heure qu'on va suivre avec toi à 13h évidemment. Tiens, les grandes gueules, tout de suite on va se poser la question, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? On va se projeter.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
J'y crois pas. Les GG, écoutez-moi bien. Les récompenses individuelles vont pourrir la saison du Paris Saint-Germain. J'y crois ou j'y crois pas, Christophe?
J'y crois pas. J'y crois pas parce que Luis Enrique.
Sarah?
Bah ouais, j'y crois. Ouais, j'y crois pas.
Alizé?
Ça peut.
Ah, ça peut. Ballon d'or pour Dembélé, je rappelle. Ballon d'or africain pour Hakimi. L'entraîneur du PSG a voulu en parler hier, alors qu'il n'était même pas interrogé là-dessus. Ça qui est intéressant, écoutez.
Mais je suis un petit préoccupé parce que tout le temps, je sens beaucoup de bruit autour de l'équipe et autour de et beaucoup de récompenses individuelles. C'est un sport d'équipe. Il faut être prêt pour travailler en tant qu'équipe. Les prix individuels, ce sont différents parce qu'il y a beaucoup de reconnaissements. Et c'est joli d'avoir cet reconnaissement, mais je suis un petit peu préoccupé parce que je ne vais pas parler sur les passé, de parler sur l'avenir. Et en ce sens-là, moins de prix et plus de concentration, c'est ce que nous voulons.
Cédric, il est très bon parce qu'il désamorce un problème qui pourrait arriver en amont. Parce que s'il y a des comportements individualistes dans le vestiaire, il dit attention, si vous jouez à ça, ça va poser un problème à l'équipe. Et dans la com, il est très bon parce qu'avant que le problème arrive, il le désamorce.
Non, on sait à quel point ça peut faire perdre la lucidité d'un individu de penser à ces fameuses récompenses et ça peut perturber le collectif. Moi, j'en suis persuadée. À un moment donné, quand il y a une action où tu as le choix de faire une passe et tu décides d'y aller tout seul parce que tu te dis, bah, si je mets mon but, bah, j'ai peut-être une chance d'être reconnu, d'avoir, il y a l'ego qui va parler, en fait. Cet ego, il peut prendre une place. Et en fait, là, avec ces récompenses individuelles qui sont de plus en plus présentes, on le stimule, cet ego. Et pour le collectif, c'est pas idéal.
Et vous imaginez aussi toutes les demandes de prolongation aussi qu'il peut y avoir des joueurs de contrat, quand individuellement ça augmente comme ça, l'année dernière, c'était tous des jeunes joueurs du PSG.
C'est ça, aujourd'hui, sont devenus des stars mondiales. Mais comme Cédric, je pense que Luis Enrique a l'habitude, il sait gérer les vestiaires, il sait gérer des vestiaires avec des grandes stars.
Ouais, mais c'est pas neutre qu'il en parle.
Au Barça.
Il désamorce.
Il reste quand même encore un prix à décerner, le best FIFA.
Ouais, le meilleur joueur FIFA.
Il y a quatre Parisiens dans le groupe. Est-ce qu'ils vont mettre du poison dans la pitance de leurs coéquipiers? Est-ce qu'ils vont trafiquer la voiture, les trains? Je sais pas.
Dembélé avait demandé plus d'argent au moment de sa prolongation aussi par le Ballon d'Or.
Et puis il faut comprendre la réponse de Luis Enrique, c'est qu'elle vient après une conférence de presse où à toutes les questions il a répondu. Je sais pas.
Ah oui, ça c'est.
Non, mais il nous a fait un laïus. Et donc, en fait, on a l'impression qu'effectivement, il veut donner un petit peu de grain à moudre aux médias. Et donc, et avec cette réponse-là, il prévient aussi son vestiaire. Il est quand même très, très malin.
Hein. PSG Le Havre, 21h05 ce soir sur RMC, évidemment, à suivre. J'y crois pas, les GG. Le padel va dépasser le tennis en France en nombre de pratiquants. Sarah?
Non, j'y crois pas.
Elle disait ?
J'y crois pas.
Oui, oui et re-oui. Oh là là, Christophe.
Mais tu comprends rien.
Mais je
Je rigole. J'assume pas du tout d'avoir dit ça.
Selon une étude de, selon une étude de l'Observatoire du Padel, le nombre de pratiquants est monté à 850 000 en France en 2025. C'est une hausse de 130% depuis 2023. Je rappelle que le tennis compte près de 5 millions de pratiquants en France. T'y crois, Cédric ? Joueur de padel.
Parce qu'il joue au padel, il joue pas au tennis.
Non, non, un, je joue pas au padel. Deux, parce que physiquement, je peux pas pour l'instant. Non, je vais me faire opérer d'une hanche, donc là, je suis dans la souffrance. Mais non, mais c'est facile, tu vas au paddle, c'est sexy, c'est facile. Tu joues entre potes, c'est moins long et moins dur que le tennis. Tu peux jouer, il y a des terrains partout, c'est simple. L'état d'esprit n'est pas le même.
Tu vas, ça que tu veux dire.
Pardon, pas pauvre,
c'est le tennis du pauvre.
Non, pas du tout. Je dis que c'est plus, techniquement plus facile.
Plus accessible.
C'est plus accessible. Il y a moins, c'est un peu comme le golf. Quand tu vas dans un club de tennis, tu vois, il y a un certain côté premium, là, au paddle, feu, quoi.
Il ne faut pas sous-estimer le poids de l'histoire, quand même.
Exactement.
Le tennis, mais, c'est un sport qui existe depuis, l'Empire.
Légendaire. Non, mais l'histoire, et je suis d'accord avec vous, mais regarde les audiences que font le paddle.
Les Indiens sont pas bonnes.
Non.
Tant qu'on aura des vitrines comme les grands chelems, comme Roland Garros.
Mon argument tombe à l'eau. Bon, je suis désolé.
Non, je disais, tant qu'on aura des vitrines comme les grands chelems, comme Roland Garros en France et tout ça, le tennis restera de toute façon toujours attractif. Mais alors après, il est menacé.
Pourquoi ?
Il est menacé parce qu'il y a beaucoup de joueurs, surtout dans la tranche d'âge entre 30 et 60 ans, ce public masculin, qui switch du tennis au paddle, effectivement, pour les raisons qu'a évoqué Cédric.
Il switch tant que ça ou il joue les deux ?
Non, ça switch.
Ça switch définitivement. Hein. Mais, j'ai plein de copains, mais je pense quand même que.
Ouais, mais ça switch beaucoup.
Ouais. Sarah, t'inquiète aussi.
Non, aujourd'hui, le paddle est devenu une alternative au tennis.
D'accord.
Et peut-être même un mode de survie pour les clubs historiques de tennis. Mm-hmm. Mais cette bulle de croissance, à un moment, elle va se tarir. Et je pense que le tennis reste. Oui, mais le tennis reste. Au niveau professionnel, il reste tellement attractif et tellement médiatique que, en fait, cette différence, elle se comblera pas, même dans les 15 prochaines années. Et si on tape sur une croissance exponentielle, ça le rattrapera pas. Et ça restera un sport amateur, le paddle.
Va faire comme le snowboard en ski, c'est-à-dire qu'il va y avoir une explosion sur les pistes de ski. À un moment, tu voyais plus que des snowboards. Ouais. Et puis, petit à petit,
comme par hasard,
le vrai sport, le ski est revenu. Et parce que le snowboard, c'est plus facile à apprendre que le ski. Le paddle, c'est plus facile à apprendre que le tennis. Mais les vrais, les seuls.
Je ne suis pas d'accord parce qu'ils font de fortes audiences.
Allez, dans quelques instants, on va ouvrir la porte du vestiaire. On va parler du spectacle dans le sport de haut niveau. Vous êtes 1 million à nous suivre d'ailleurs chaque samedi en termes d'audience.
C'est le million. Le million.
C'est les mauvais joueurs de tennis qui jouent au paddle. Hein.
À tout de suite dans les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.